Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde!
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingueur.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard. Le sarcasme prud'homesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Voilà, salut ta gueule, j'adore comment ça commence. Bonjour Marie.
Bonjour Gilles.
Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur les Tontons Flingueurs, émission, je vous le rappelle, qui est en direct le jeudi matin de 10h à 11h, diffusée de 19h à 20h le même jeudi, et le samedi après-midi de, Chloé, tu me rappelles, de 15 à 16 ou de 16 à 17, je sais même plus. Oui, tout ça pour vous dire, c'était une manière très fine de vous dire, Chloé, t'as la technique, merci Chloé, tu as passé de bonnes fêtes ? Merci, tu as passé des bonnes fêtes ? Ça se voit, Chloé. Nous espérons évidemment que vous aussi, vous avez passé de très bonnes fêtes. Voilà, tout ça est derrière. Alors, c'est pas toujours bon signe, parce qu'évidemment, quand il faut se remettre au turbin, eh ben, il y a des soucis, à commencer par nous. Alors, je vais vous faire un petit peu le topo. Hier, on préparait l'émission et on se dit, mais de quoi on va parler, n'est-ce pas, Marie ? Et on a fini, au bout d'une heure et demie de discussion, à dire, mais on n'a rien à vous dire, finalement. On n'a strictement rien à vous dire pour cette nouvelle année qui va venir. Alors, écoutez, puisque si vous souhaitez nos vœux, plein de bonnes choses, donc pour cette année à venir.
C'est un type qui va chez son médecin, son sexologue, parce qu'il ne vient plus. Docteur, je ne viens plus. Le médecin l'examine et lui donne les cachets. Vous prenez ces cachets, si vous venez, ne revenez pas. Mais si vous ne venez toujours pas, eh bien, revenez me voir. Quelques semaines plus tard, le type est à nouveau chez le médecin. Il s'adresse à la secrétaire. « Mademoiselle, je suis venu il y a quelques semaines parce que je ne venais pas. Le médecin m'a donné des cachets et m'a demandé de ne pas venir si je venais, mais que si je ne venais pas, de venir aussitôt. J'ai pris les cachets et je suis venu. Cependant, maintenant, je ne viens plus, alors me voici. » La secrétaire va parler au médecin. « Docteur, il y a ainsi un type que vous avez, à qui vous aviez demandé de ne pas revenir s'il venait et de venir s'il ne venait pas. Il est venu donc. Il n'est pas revenu. Mais aujourd'hui, il ne vient plus, alors il est venu. » Le docteur lui répond « Parfait, mademoiselle, faites-le venir. » Et la secrétaire lui répond « C'est ce que j'ai fait, alors il est reparti. »
Voilà, une très bonne santé, une très bonne année
bonne
à tous.
Année.
Bonne année pour l'année donc à venir. Au sommaire aujourd'hui, Chloé, ça l'a pas du tout fait rigoler, mais c'est pas grave. On a beaucoup apprécié, nous, le côté un petit peu Raymond DeVos, quand même, hein, la mer est démontée, on la remonte quand, pour les plus anciens ou anciennes d'entre nous. Au débat aujourd'hui, bah, pas mal de choses. On parlera on est tombé sur un article, évidemment, sur la biométrie, sur le business de la biométrie, et ça nous a fait un petit peu tilt, et ça nous a donné envie de faire un petit tour sur tout ce qui était fichiers, sécurité, flicage. Alors évidemment, ce sera la deuxième partie d'émission. On essaiera, Jean-Marie qui me regarde avec un regard désespéré, on essaiera d'en débattre en deuxième partie. Mais tout de suite, on va attaquer avec l'actu. Alors on en a quand même trouvé un petit peu. Mais c'est vrai, hein, cette envie de ne pas être glauque, de ne pas vous plomber dès le matin, parce que c'est chiant en ce moment, mais c'est d'un chiant.
On n'a rien trouvé. Il n'y a aucune. D'abord, il n'y a pas d'information du tout. Il y a des petites peccadilles.
Voilà, Sarkozy, la taxe Tobin, enfin que des conneries,
ouais,
quoi.
Des chiens écrasés, des machins comme ça. Et alors, surtout, dans le côté fun, là, c'est le grand désert.
Ouais, alors on a essayé quand même. Ah oui, on n'est pas sur une radio de copains, je le rappelle, vous le savez, Radio Sainte-Afrique n'est pas la radio des copains, donc une spéciale dédicace à nos potes Poulpi, qui nous disaient hier, oui, mais attendez, on n'en parle jamais à la télé, on n'en parle jamais à la radio. Alors voilà, spéciale dédicace, les loulous, si vous nous écoutez, oui, le championnat d'Europe de handball démarre la semaine prochaine. Donc vous voyez, on l'a fait.
Et c'est Euro.
C'est l'Euro.
JO.
Eurogio.
Mondiaux.
Voilà, Marie s'était engagée hier soir à faire cette petite dédicace. Bisous les bisous à toutes et à tous.
Bien sûr, on attend vos appels donc au 05 65 49 29 94.
Heureusement que
05 65 49 29 94.
Vous voyez, elle devient vachement pro finalement. On va bientôt pouvoir la laisser préparer l'émission. C'est trop génial.
Allez, on attaque. Moins d'auditeurs, je pense.
On attaque quand même sur un sujet qui nous a fait un petit peu crisé, parce qu'évidemment c'est la grosse arnaque, enfin ça nous semble être la grosse arnaque, c'est la TVA sociale. Alors la TVA sociale, évidemment, c'est un des seuls sujets intéressants, parce que c'est un truc qu'on va nous glisser juste avant l'élection, du genre ouais, nous on a réformé jusqu'au bout, et bon, évidemment, quand ça vient aussi vite, et c'est le cas, quand ça vient aussi vite, il faut faire attention.
Je m'excuse pour Gilles, hein, je suis désolée pour vous, chers auditeurs, il n'est pas tout à fait dans son état normal ce matin.
Tout va très bien. Alors la TVA, Marie, parlons un petit peu avant de parler de la TVA sociale, rappelons quelques vérités sur la TVA. La TVA en général, c'est quoi? La taxe sur la valeur ajoutée?
Alors, il va falloir que je m'en souvienne, puisque j'ai imprimé plein de choses sur la TVA qui sont inscrits en tout petit.
Avec une police 2.
Voilà, encore 2 sur des feuilles A4, c'est très intéressant. Alors, la TVA, ça a été inventé, alors j'ai la date,
ouais.
ça a été inventé à un moment. Écoutez, je vais dire une connerie, alors je ne dirai pas. Voilà, ça y est, je l'ai, excusez-moi. TVA, c'est en 54 que ça a été inventé.
1954, d'accord.
Alors, ça, c'est bon, la taxe sur la valeur ajoutée. Mm-hmm. La grosse idée, ben, c'est de taxer à chaque fois qu'il y a un produit.
Que quelqu'un achète, que quelqu'un
voilà,
vend.
Hein, je fais un petit résumé, c'est taxé sur le bénéfice. Mm-hmm. Et c'est quand même le consommateur final, évidemment, qui paye l'addition. Alors, c'est un impôt qui ramène 3 fois plus que l'impôt sur le revenu, la TVA. Voilà.
C'est un impôt direct ou indirect?
C'est un impôt, là aussi je vais dire une connerie, c'est un impôt direct,
c'est un impôt
bien
direct,
sûr.
Hein. Voilà. Puisqu'il touche effectivement l'impôt direct, on consomme, on la paye. Mais alors elle semble, ce qui est hallucinant, parce que c'est quand même du 20%, c'est quand même du 20%, on va arrondir pour simplifier les chiffres évidemment, ça veut dire qu'il y a, voilà, à chaque fois que quelqu'un produit une richesse dans ce pays, déjà la TVA est payée. Alors elle est payée sur la matière première, parce que ce que tu expliquais hier pendant la préparation, c'est qu'en réalité cette TVA elle est payée plusieurs fois. On a la sensation, allez, on la paye une fois, on la collecte, il y a des gens qui la collectent et qui la reversent à l'État, mais c'est pas si simple. Elle est payée au moment de l'achat de la matière première.
Elle est payée en fait à chaque transaction.
À chaque étape.
Bon, ça c'est notre système qui est complètement aberrant de multiplication des prix par 10 pour arriver au consommateur final.
Avec tous les intermédiaires.
Alors ouais. Par exemple, le fabricant fabrique son produit, il lui coûte 1, il va le vendre 2. Donc lui, il va facturer au gars au-dessus ce 2 plus 20%. Hein,
ouais.
Il va le mettre de côté pour l'État. Le gars du dessus va se faire une marge de 2 sur le produit. Donc il fait 2 x 2 égale 4. Et il en prend 20%.
Et on reprend 20%,
4,
voilà. Donc elle est payée
etc.,
à toutes
etc.
les étapes.
Alors c'est un peu compliqué, c'est un peu plus nuancé parce qu'elle est payée
ouais.
finalement sur le bénéfice, cette TVA.
D'accord.
Mais par contre, le gars qui paye à la fin son truc x10 du bitonio qui coûtait 1 au départ avec tous les mm-hmm. intermédiaires qu'on a, lui se paye donc x10. 20% 2 x 10. Et
bon,
c'est
ça fait beaucoup de chiffres.
Moi,
ça fait beaucoup de chiffres. On la paye en fin de parcours, qu'allons de toute manière payer la différence. Alors, la question évidemment que tout le monde se pose sur cette TVA sociale, puisque bon, elle nous est présentée. Alors, évidemment, un grand renfort de marketing, ça va être un truc super. Bon, de nombreux médias s'en sont emparés. À gauche, évidemment, on hurle au scandale en disant que c'est un impôt de plus, que c'est le consommateur, une fois de plus, et tant qu'à faire, le pauvre ou la ménagère, si on peut résumer ainsi, qui va casquer cet impôt supplémentaire. Et puis, à droite, on dit non, c'est très très bien, les patrons vont jouer le jeu et vous allez voir, ça va être extraordinaire pour le business. Alors, on s'est appuyé sur un article du Monde en ligne qui était relativement bien foutu et qui fait une très bonne synthèse finalement assez simple des gagnants, des perdants, parce que finalement c'est tout ce qui intéresse les gens. Hein. La TVA sociale, qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le pouvoir d'achat? Alors, grosso modo, le principe déjà pour commencer, c'est pour bien comprendre TVA sociale, pourquoi? Parce qu'elle va toucher des impôts dits sociaux, mais c'est pas une TVA qui est faite pour arranger le social, hein. C'est un relèvement de plusieurs points de la TVA qui est associé à une baisse des charges patronales sur le travail. Voilà pourquoi elle a ce nom-là. Alors, dans les gagnants, évidemment, le MEDEF, curieusement, soutient fermement le projet. Pourquoi ? Parce que les employeurs vont bénéficier d'une baisse immédiate des charges patronales. Donc, ça va baisser le coût du travail. Alors, on est quand même dans un des pays où le coût du travail est le plus élevé. Faut pas non plus se voiler la face là-dessus. Donc, c'est pas forcément négatif au départ. Donc, le scénario...
Je crois que les charges, quand même, c'est 54% en moyenne sur un salarié. C'est...
C'est hallucinant. Énorme, c'est hallucinant.
C'est
les petits patrons, les patrons ne sont pas tous des poujadistes quand ils disent le coût du travail est exorbitant dans ce pays. C'est absolument hallucinant. Embaucher quelqu'un, c'est une véritable galère.
Voilà. Même embaucher un gars au SMIC, vraiment, c'est, il faut sortir un.
C'est bien simple. On prend
incroyable.
Un titre, c'est bien simple. Si on prend quelqu'un à 1500 euros, la personne coûte 3007 ou 3008.
Voilà.
Au total.
En sachant que la personne, bien sûr, elle aussi va payer en plus sur son salaire, des cotisations, etc.
Donc là-dessus, sur ce principe, pourquoi pas baisse patronale sur le coût du travail. Bon. Alors le scénario, c'est quoi? C'est que grâce au transfert des cotisations qui était actuellement, on va dire, de 5,4% du salaire, grosso modo, pour un salarié payé 2000 euros brut, le patron, lui, doit pouvoir gagner à peu près 108 euros. Donc bon, on se dit, c'est pas si mal que ça. Le mec, il est content, surtout s'il a 300, 400 ou 500 salariés. Il est clair que le petit chef d'entreprise, la petite PME de 2, 3 ou 4 personnes, lui, 100 euros par salarié multiplié par 4, par exemple, ça fait 400 par mois, c'est 4000 à la fin de l'année. Bon, c'est pas non plus d'une grande efficacité. Ça va surtout toucher les boîtes qui ont 3000, 4000, 5000 salariés. Alors maintenant, voilà, c'est que les employeurs, ils vont pas gagner de la même manière, finalement. C'est-à-dire que les salariés qui sont au SMIC, actuellement, ils sont exonérés des cotisations patronales. Et elles sont dégressives jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Donc, en l'occurrence, ça ne fonctionnera, ça, que pour les employeurs qui versent des salaires plus élevés. Donc, seront donc gagnants ceux qui versent des salaires élevés et pas ceux qui embauchent des SMICards. Ça, c'est un premier aspect. Après, au niveau du patronat, ils sont pas tous d'accord parce qu'ils disent que ça dépend du secteur. L'industrie, elle est très demandeuse de TVA sociale. Alors, elle aimerait bien sur les marchés internationaux, compétitivité internationale oblige.
Alors là, c'est l'autre branche. Là, on a parlé, en fait, les cotisations sociales. Le but, ce que tu viens d'évoquer, c'était le fait que les cotisations sociales ne soient plus portées par l'entreprise.
Soit un peu moins portées par l'entreprise.
Voilà, et plus par le salarié, en fait. Mais sans que ça change vraiment quoi que ce soit pour lui. Et le phase 2, effectivement, c'est...
Ah ben
les exportations.
Disons, après, effectivement,
j'ai
il y a l'export. Il y a l'export parce qu'il y a une petite idée derrière tout ça. Enfin, c'est l'idée que Sarkozy ou ses communicants nous mettent devant, nous proposent. Ils nous disent, voilà, c'est finalement aussi une forme de protectionnisme. C'est-à-dire que si on appliquait cette TVA sur les produits fabriqués à l'étranger, ça découragerait les gens d'aller fabriquer éventuellement à l'extérieur. Alors, vu les montants induits, c'est complètement bidon comme argument. C'est-à-dire que c'est pas ces quelques points qui font changer quoi que ce soit. Ça va pénaliser les produits qui viennent sur le territoire français.
Oui, c'est ça, c'est un protectionnisme.
C'est
oui,
une
ça.
Forme de protectionnisme déguisé, mais franchement, selon tous les analystes, c'est totalement bidon. Hein.
Mais concernant la TVA, c'est quand même un truc, je reviens là-dessus, excuse-moi, je te...
Non, mais vas-y, il n'y a pas de souci.
Il y a quand même un truc qui est rigolo, c'est que quand vous allez à l'étranger, vous avez certains... Alors, bien sûr, vous n'allez pas trouver votre baguette, mais par exemple, un parfum, vous achetez un Guerlain, pour ne pas citer de marque, à l'étranger, vous allez le payer moins cher.
Oui.
Qu'en France,
puisque
nos produits à l'export n'ont pas ces 20% de TVA.
D'accord.
Et d'ailleurs, c'est nous qui l'avons inventé, la TVA.
Ah bon ?
Ah oui, c'est la France qui a inventé ça, on est fort.
Il y en a beaucoup qui l'ont repris derrière.
Ah, ouais. Tous. Eh bien, tous les États se sont saisis de cette fabuleuse invention.
C'est absolument
quoi.
Génial, c'est un concept d'enfer. Alors maintenant, qui ne sera ni gagnant ni perdant ? On va dire pour qui ça ne change rien, cette éventuelle TVA sociale. Les retraités du régime général et de la fonction publique. Pourquoi ? Parce que les retraites du régime général et de la fonction publique sont indexées sur les prix. Donc elles sont augmentées autant que l'inflation prévisionnelle. C'est-à-dire on prépare l'inflation, on dit voilà, il y aura tant de pourcents d'inflation, on augmente les retraites de temps. Donc pour eux, absolument aucun changement. Les allocataires de minimum sociaux...
Ils ont de la chance. Hein,
les allocataires de minimum sociaux, le RSA, l'allocation spécifique de solidarité, pourquoi ? Parce qu'ils sont également revalorisés sur l'inflation. C'est-à-dire que, voilà. Alors maintenant, qui est-ce qui va manger ? Parce que ça, c'est quand même le plus intéressant de tout ça. Les salariés, dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que si les prix augmentent, ils vont perdre en pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier aspect. Alors, les négociations salariales au sein des entreprises sont basées sur l'inflation. Alors, les économistes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, oh, mais à moyen terme, les effets vont s'annuler, les salariés vont obtenir des augmentations de salaire qui compensera la hausse des prix. Surtout par les temps qui courent, avec le discours sur la crise, on voit la gueule des augmentations de salaire. Je vous encourage tous, auditrices et auditeurs, surtout si vous nous écoutez à cette heure-ci au boulot, à aller tout de suite demander à votre patron d'anticiper la TVA sociale. Vous allez voir, vous allez être bien accueillis. Les fonctionnaires qui vont manger aussi, parce que les revalorisations des pensions de la fonction publique, elles sont basées, elles, sur une évolution extrêmement lente, et ces dernières années, elles ont même été intégralement gelées. Depuis 2 ans, le point d'indice de la fonction publique a été totalement gelé. Si ça continue, donc eux, ils vont prendre 1. L'inflation élevée avec la hausse de la TVA, 2. Pas d'augmentation de salaire, donc eux, ils vont prendre. Et une partie des allocataires également, puisque pour limiter les déficits, le gouvernement a décidé dans le fameux deuxième plan de rigueur, celui qui est juste avant le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le plan de rigueur de cet automne, de ne revaloriser que de 1% les prestations familiales au 1er avril. Donc ça veut dire, grosso modo, si on vous revalorise valorise d'un pour cent et que la TVA sociale vous en met trois dans la tête, vous voyez ce que je veux dire. Alors, grosso modo, j'adore la conclusion de l'artiste, d'un monsieur qui s'appelle donc Jean-Baptiste Chastan du Monde. Il dit « L'impact de l'instauration de la TVA sociale dépend donc essentiellement de la manière dont les employeurs vont répercuter l'accroissement de leurs marges. » Ah, nous y arrivons. S'ils réduisent leurs prix, l'inflation devrait être limitée. La hausse de la TVA étant compensée par la baisse des prix, c'est bien. Par contre, s'ils augmentent les salaires ou s'ils empochent les gains, l'inflation devrait largement en pâtir.
Alors, et puis on a eu le cas sur la restauration, puisque en fait, c'est compliqué toutes ces histoires.
C'est quand même important d'en parler.
Alors quoi, cette TVA sociale, il y a eu la TVA tout court qui a augmenté, pas la TVA sociale.
Ah, la TVA de 5,5 à 7,5 sur la restauration. Là, ouais.
Et effectivement, il y a petite étude qui a été menée. Apparemment, vous savez que la restauration donc, était passée à 5,5. Au lieu de 19,6, oui. C'était énorme, enfin pas sur les
pas boissons. Pas que, également les travaux. Hein,
et voilà. Apparemment, les répercussions sur l'embauche qui étaient censées découler, c'est nul. Bon, absolument. On connaît tous nos amis restaurateurs, on sait que c'est très compliqué, c'est très difficile, que c'est, les 35 heures ou les 39, c'est compliqué, c'est des métiers pas faciles pour faire rentrer les sous. Mais en tout cas, évidemment, moi, j'ai pas vu ma note baisser. C'est normal. Après, il faut soutenir la profession. Mais donc, là, on va dire qu'une baisse de la TVA, ça m'étonnerait qu'il y ait effectivement, comme tu le disais, sauf sur des grosses boîtes, où ils vont pouvoir engager pour 100 personnes, peut-être une personne en plus, pourquoi pas. Sinon,
Moi je pense que d'abord, dans l'analyse qu'on peut en faire, avant de te rendre tout de suite la parole pour voir un petit peu justement, c'est pas maintenant, c'est après qu'on parlera, on va parler de l'anniversaire de l'euro aussi, c'est sympa, vous verrez. Pour terminer sur ce sujet de la TVA... Il est clair que ça sent quand même un petit peu l'arnaque à quelques mois de la présidentielle, mais surtout, ça ressemble au 4e, 5e, 6e, 8e plan de rigueur, mais celui-là, on ne l'annonce pas. C'est-à-dire qu'officiellement, on est resté au 2e de M. Fillon, mais là, c'est vachement pratique. Voilà une augmentation d'impôts, entre guillemets, déguisée. Alors, la gauche critique, la gauche allume.
Mais ils ne sont pas tous d'accord à gauche.
Mais ils ne sont pas tous d'accord à gauche. D'ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord non plus à droite. Donc, on peut imaginer, vu le niveau de concertation, justement, de nos élus, que la mesure, qu'elle soit prise ou pas prise, aura été concertée et évidemment, sera extrêmement intéressante pour nous tous. On va passer au sujet suivant. Un petit dessin vite fait, je sais, Gilles, notre ami Gilles, si tu nous entends, aime bien le faire, mais moi j'ai trouvé là qu'on vous la raconterait quand même si c'était un dessin à l'antenne, parce que c'est vachement bien. Un dessin sur un site qui s'appelle urticane.net, la TVA sociale pour les nuls. Et alors là, vous avez deux personnes au bistrot, et puis alors vous avez le grand spécialiste qui dit, moi je vais vous expliquer, la TVA sociale c'est vachement simple. Par exemple, vous achetez un beefsteak, et là t'as trois mecs qui sont en face, puis qui lui disent avec quoi ? C'est un dessin extraordinaire qui résume bien la vie de la TVA sociale. Sujet suivant, Marie. Eh ben, le sujet suivant, c'est pour ma pomme. C'est les petits problèmes d'eau. Ah ouais, dommage, j'avais pas les paperasses dans le bon ordre. Les petits problèmes d'eau à Saint-Paul-des-Fonds. Alors, petit problème, non, soyons un petit peu sérieux. C'est pas un petit problème, ça touche, je pense, pas mal de communes en dessous du Larzac. Autour du Larzac, sur le Larzac. Et c'est pas un débat qui démarre aujourd'hui, comme on va le voir dans quelques instants. En 1996, des gens se posaient beaucoup de questions et des tests étaient réalisés. De quoi s'agit-il ? De la récupération éventuelle de l'eau, une fois qu'elle est passée, qu'elle est tombée, sous forme de pluie ou autrement, sur le Causse. Il s'agit d'ailleurs de l'eau, mais également des pollutions, évidemment. Comment tout cela est filtré ? Par le Causse, comment tout cela se répartit, comment tout cela arrive ou pas dans les sources. Et le problème qui se pose actuellement à Saint-Paul-des-Fonds, avec une conséquence énorme qui est une réunion publique ce jeudi à 14h30 organisée par la mairie de Saint-Paul-des-Fonds, le problème qui se pose, c'est qu'on apprend qu'en sortie de station d'épuration au Viala du Padjo, qui était jusqu'à maintenant balancée plutôt sur la commune de Tournemire, on a appris par un bruit qui court, avec relativement peu d'informations quand même de nos élus jusqu'à maintenant, que cette sortie d'épuration, ce qu'on appelle ces effluents, serait balancée directement dans la source de la cabane. Alors, la source de la cabane, pour tous les gens qui s'intéressent un peu à la spéléo ici, qui s'intéressent à la grotte, aux grottes, aux anciennes fleurines ou aux grottes de Saint-Paul, c'est quelque chose, entre guillemets, d'un petit peu mythique. C'est une grotte magnifique qui rentre de 13 ou 14 kilomètres à l'intérieur du Larzac avec des via ferrata aménagées. Enfin, c'est un truc absolument génial, magnifique. Et on vient d'apprendre donc que les effluents de la station d'épuration du Viala seraient balancés directement dans la source de la grotte. Alors, ça peut paraître bête, il faut bien la mettre quelque part. Il n'est pas question ici, à cette antenne, de tenir le discours en disant non, c'était Tournemire qui le garde, nous on n'en veut pas parce que sinon on va balancer au village d'à côté. Et le problème est irrésolvable.
C'est quand même un choix de... C'est n'importe quoi.
Alors, l'argument étant, et vous allez voir, c'est ça qui tue un petit peu, c'est que, c'est une source a priori d'eau potable, mais personne ne la consomme. Alors là, évidemment, on a absolument envie d'hurler parce que actuellement, effectivement, tout le monde est raccordé au réseau et actuellement, peut-être, il reste deux ou trois personnes qui peuvent utiliser d'une façon, on va dire en binôme, hein, d'une façon en relais, qui peuvent utiliser encore dans le village cette source pour le jardin ou les choses comme ça. Mais d'une manière générale, à Saint-Paul, personne n'est raccordé directement sur cette source. Les habitants ont eu la surprise de voir un truc amusant il y a quelques mois en arrière. On a fait des petits tests, évidemment, avant de faire ça pour vérifier que tout allait bien se passer. On a mis un espèce de colorant au départ pour voir hein, dans le parcours subi par les effluents. Et puis, on a vu, nous, un jour, le ruisseau, les superbes ruisseaux de Saint-Paul. D'ailleurs, il y a encore des truites sauvages, pour vous dire un peu. On arrive à boire la flotte en amont du village directement à la source. On a vu passer des colorants et ils ont effectivement fait des tests qui leur permet de dire aujourd'hui non, mais il n'y a strictement aucun risque sur ce problème. Alors, le problème qui se pose, c'est que d'abord, l'eau potable, c'est un bien collectif, c'est une première chose, donc on ne comprend pas en quoi elle peut être sacrifiée même pour une station d'épuration. N'y a-t-il pas d'autres solutions? Il faut comprendre que les habitants sont très très remontés à Saint-Paul, il y a eu des réunions, la confirmation a été donnée par une adjointe de la mairie du projet. Alors, on nous a dit, vous inquiétez pas, il y aura un filtre supplémentaire, il y aura tout, vraiment on va être absolument protégé. La question que se posent les habitants, ils disent, mais si demain il y a un problème dans le réseau d'eau et qu'on a besoin de cette flotte bien pour sûr. La boire, pour survivre, comment on fait? Faut bien comprendre que les effluents d'une station d'épuration, on sait pas les éliminer jusqu'au bout, et surtout pas les médicaments, pas les restes de bactéries et de médicaments
qui
passent.
Les hormones, les machins.
On ne sait pas, et voilà. Alors, on a des autorités responsables.
Et, excuse-moi, mais pourquoi il n'y a pas d'autre endroit que de le balancer dans la source?
C'est ce qu'on essaye de leur faire valoir. Alors, la discussion ne fait que commencer, mais figure-toi qu'on a en face de nous des gens responsables, des autorités responsables.
Non, mais parce que pour n'importe quelle personne qui n'y comprend rien, c'est quand même...
Ça paraît ubuesque.
Alors, est-ce qu'il y a un problème géologique et un problème géographique? Pourquoi est-ce
alors,
qu'ils veulent le mettre
justement,
dans la
justement, je vais aller assez vite et on va expliquer ça quand même. Non, mais tu as raison, Marie, on va expliquer ça quand même brièvement. Les autorités responsables, sur quoi elles se basent, elles? Sur des normes européennes, une fois de plus. Et alors, les normes européennes, on imagine bien que les mecs, ils connaissent le problème là-haut.
Oui, à Saint-Paul-des-Fonds, bien sûr.
Ils nous disent, les normes européennes vont être respectées. Oui, bien sûr, les normes européennes vont être respectées. Je vais vous expliquer un petit peu le test qui a été fait en 1996 sur le plateau. Vous allez voir, c'est très, très respecté. Alors, on a évidemment, les habitants de Saint-Paul ont alerté des élus. Alain Marc, M. Laborie, ils seront peut-être d'ailleurs à la réunion publique de ce jeudi à 14h à Saint-Paul. Alors, le principe, c'est quoi? Nous, on demande un principe de précaution. Ça, c'est ce que disent les habitants. Ne déversez pas directement ces effluents en tête de bassin, en zone karstique, mais plutôt dans un ruisseau à proximité, histoire de préserver l'alimentation en eau potable pour maintenant et pour le futur. Et alors, on va voir ce que répondront, excusez-moi l'expression, je dirais pas les têtes de nœud, mais c'est un petit peu ce qu'on a envie de dire, les spécialistes, avec des guillemets partout autour de spécialistes. Affaire à suivre, je pense que vous en entendrez parler dans la presse, mais je crois vraiment que, surtout en Aveyron, ce problème de la flotte, c'est un problème majeur. Pourquoi? Parce que une grosse partie, évidemment, de l'alimentation en eau passe par le Larzac ici. C'est pas quelque chose de nouveau. En 1996, un journaliste qui s'appelle Sylvestre Huette de Libération a fait un article très intéressant il a profité, si vous voulez, des tests qui étaient faits sur l'architecture hydraulique du Larzac. Et ça, évidemment, nous, les habitants de Saint-Paul, ils ont envie de s'appuyer là-dessus pour dire c'est du n'importe quoi votre projet. Alors, les paysans, à l'époque, ils ont un peu halluciné parce qu'ils ont vu débarquer des camions citernes de militaires et tout. Alors, ils ont cru que ça recommençait comme en 70. Ils ne voulaient pas les laisser passer. Les mecs, ils rigolent beaucoup. Bon, il n'y avait pas de guerre sur le Larzac ce coup-là. Le camion citerne, en réalité, il est là pour rejoindre celui des pompiers. Et il va déverser le fameux liquide dont je vous parlais, qu'on appelle fluoréséine. Donc, comme le nom s'indique, on va dire du fluor, hein, du fluo, si vous préférez. Voilà, tout le monde comprendra. Ce colorant, il est très intéressant parce qu'on sait le détecter dès qu'il dépasse un 1/10 de milligramme par litre. Donc, c'est très pratique pour voir le cheminement de la flotte dans le car, si vous voulez. Alors, on a fait le test. L'eau, elle pénètre dans le plateau. Et puis, après, elle rentre. Et puis, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surveillé par ce biais-là. Ils se sont amusés à surveiller toutes les sources, tout ce qui se raccordait, pour essayer de faire une analyse, une carte à peu près cohérente de tout ce qui se passait. Rappelons qu'en bas, quand même, il y a Millau, 30 000 habitants. Tout le monde utilise la flotte qui arrive du Larzac, côté Saint-Paul, côté Sainte-Afrique. Partout, on est concerné par ce problème. Alors, extrêmement drôle. Premier truc, les mecs, ils se rendent compte que toutes les cartes qui avaient été faites jusqu'à maintenant, les cartes, les répartitions qui pensaient être justes étaient complètement bidons. Étaient complètement bidons. Alors il y a un grand spécialiste, hein, il faut savoir qu'il y a des types du CNRS qui sont venus, et entre autres un monsieur qui s'appelle monsieur Michel Bakalovitch. Il est venu et lui il a déliré parce qu'il a dit, attendez, avec les besoins qu'il y a de plus en plus, avec le tourisme, avec les besoins qu'il y a en eau potable, on demande de plus en plus d'eau dans les villes partout, c'est quelque chose vraiment qui est très très important de faire ce test. Alors, les types font leurs tests, les cartes anciennes sont à refaire intégralement, les préfets et les maires se basaient sur ces cartes complètement bidons. Alors, tout le monde, évidemment, commence à rayer les cartes dans tous les sens. Tout est faux, tout est bidon. Sur tout le Larzac, chaque zone de pollution, bergerie, habitation, autoroute, camp militaire, tout a été testé, cartographié, identifié. Chaque perte, chaque fissure, chaque relais sur le réseau a été identifié. Alors, l'année 96, extraordinaire. Pourquoi ? Parce que l'hiver, je termine très vite, l'hiver a été extrêmement humide. Plus de 150% la norme habituelle. Et alors, c'était la fameuse année de la résurgence du lac des Rives. Pour ceux qui connaissent ici, tous les 10 ans, il se passe un phénomène, 10 ou même des fois 15 ans, un phénomène extraordinaire du côté des Rives, là, avant de rejoindre l'Hérault. On a une résurgence d'eau. Ça remonte, ça ressort comme un espèce de siphon. Le Larzac ressort la flotte sur un lac qui couvre des hectares extraordinaires.
Et ce lac qui s'assèche après.
Et il s'assèche après. Tu connaissais pas ça?
Non,
Marie,
je connaissais pas ça.
La résurgence du lac des Rives, c'est quelque chose d'ailleurs que chaque année, quand ça arrive, les années où ça arrive, où tout le monde se précipite, parce que c'est une fois tous les hauts et une fois tous les 10 ans normalement, ce que disent les gens, mais c'est pas aussi simple. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'année où ils ont fait leur test, là, c'est l'année de la résurgence, justement.
Ah, oula.
Et de quoi ils se sont rendus compte? Il y avait de la flotte partout. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, qu'il suffisait d'un orage, qu'il suffisait d'une année un petit peu pluvieuse, qu'il suffisait d'une année très humide pour que le cheminement des eaux soit complètement différent.
Changer, oui.
Et change radicalement d'une année sur l'autre. Donc personne aujourd'hui, conclusion de cette enquête de 1996, si on cumule orage et accident, on court à la catastrophe. Si y a un déversement de produits chimiques actuellement le Larzac et qu'il y a un orage qui arrive juste derrière, ça va partir dans toutes les sources d'eau potable. Donc grosso modo, il est urgent, je dirais, d'appliquer le principe de précaution. Je dirais urgent de rien faire, non, c'est pas le terme, mais de faire très attention à ce qu'on fait, parce qu'encore une fois, c'est un bassin d'alimentation en eau potable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitants dans la région.
Oui,
voilà.
Oui, tout à fait. Et même les sourciers disent que c'est un réseau incroyable à Saint-Félix-de-Sorgues, par exemple. Moi qui ne suis pas forcément... J'étais très étonnée d'apprendre que l'eau potable vient de la colline d'en face. C'est hallucinant. La source, elle est de l'autre côté de la Sorgue. Et donc, elle passe en dessous de la rivière et elle remonte de l'autre côté. C'est un truc, on se dit, mais c'est pas... Bah si, moi je pensais que ça venait du haut de la colline, tu vois, bêtement.
Ah ouais,
eh bien
ah ouais.
Non, c'est d'en face.
C'est d'en face.
Et tout est comme ça
c'est,
ici.
Et
quoi.
Tout est comme ça, et là c'est le petit message personnel, mais on est toujours en train de parler d'environnement, d'énergie renouvelable, ainsi de suite, mais je voudrais quand même rappeler pour les parents responsables qui nous écoutent que leurs enfants, ils vont avoir besoin de boire de l'eau potable dans quelques années, pas que de l'eau en bouteille, et que c'est peut-être un des problèmes numéro un. Il n'est pas improbable que dans 20 ans, on paye la flotte plus cher que le gasoil. Hein, faut bien réfléchir. Les enjeux autour de l'eau vont devenir aussi importants que les enjeux autour des énergies, quelles qu'elles soient. On n'en parle pas beaucoup. On ne voulait pas des gaz de schiste dans le Larzac. On n'a pas non plus du tout envie de récupérer dans nos sources les sorties de... Voilà.
Non, et puis il y a des gens sans doute qui vont... je sais pas. On n'a pas l'info, mais je regarderai pour... je crois que Toulouse s'était intéressé au potentiel en eau du Larzac.
Oh, bah, tout le monde regarde le Larzac.
Vraiment
parce que
une terre voilà. Que tout le monde a envie de
Marie,
bouger.
Nous allons parler un petit truc un peu léger. La journée internationale sans pantalon, qu'est-ce que c'est que ce délire?
Alors,
que tu m'as sorti là?
C'est très étonnant, la journée internationale sans pantalon. Chloé, ça l'a fait.
Chloé, ça y est, là, elle rigole.
Elle
ah, ça lui plaît.
À la journée internationale.
Ah, c'était lundi.
C'était dans le monde entier, c'était ce week-end. Alors donc, toi, Chloé, tu as participé à cette journée?
Oui.
Raconte-nous, allez, vas-y, raconte-nous.
Alors, Chloé,
c'est quoi la journée
vois,
sans
voilà.
pantalon? Beaucoup mieux.
Ah, une
T'as
jupe.
Mis une jupe
hein. Ah, bon, alors c'est déjà très, très...
Chers auditeurs, nous vous informons que cette émission sera désormais enregistrée le lundi.
En vidéo, parce que sinon,
en vidéo,
franchement,
voilà,
Chloé
voilà,
en jupe à la radio.
Et vous retrouverez Chloé
bien,
en streaming,
bon.
Bien sûr, sur www.radiosaintafrique.com. Alors, c'était quoi le principe?
Non, bah c'est déjà très bien. Moi, parce que j'étais même pas au courant que ce truc-là existait. Alors, c'est un truc qui a été lancé il y a 10 ans. C'était les 10 ans de cette fabuleuse manifestation qui n'a pour autre but, qui n'a aucun but. Hein. Ça a été lancé par un groupe new-yorkais, comme ça, pour le fun. Un groupe qui, alors, c'est à la mode en ce moment, ça s'appelle des flash mobs. C'est-à-dire, on fait des trucs de groupe qui n'ont pas forcément.
Bien, le groupe.
Voilà, des trucs de groupe. Et donc, c'était les 10 ans. Il y a quand même plus de 4000 personnes, là, qui ont participé dans 27 pays. Et l'idée de départ, c'est tout simplement de se mettre, alors c'est plus fort que la jupe, c'est carrément de se mettre en culotte pour les filles,
wow.
en caleçon pour les mecs, wow. ou vice-versa, mais en tout cas, sans pantalon ni jupe, dans le métro. Voilà. Et alors, ça donne scènes. Ça n'a... Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est complètement absurde. Ça ne sert à rien. Et donc, la consigne, c'est,
la police
c'est de faire comme si de rien n'était, d'être très naturel, de ne pas se dresser la parole les uns les autres. Et ça donne des photos, par exemple, du métro new-yorkais ou sur les quais. On a des gens, alors, de tous âges et de toute morphologie, qui sont très bien habillés, genre en complet. Et voilà, juste, il manque le futal ou il manque la petite jupe, qui va bien. Et ils sont super sérieux et ils prennent le métro pour aller bosser le matin. Ça me plaît, je trouve que ça sert à rien.
C'est une idée, c'est drôle. Des fois les trucs qui servent à rien, c'est pas mal.
Et alors en France, c'est très peu suivi.
Ça détend.
Ce qui est bizarre pour le pays des sans-culottes.
Comme les indignés, au pays de la Révolution.
Voilà,
comme les indignés au pays de la Révolution, ça marche pas non plus. C'est un truc de fou. Si il est 10h29, que nous sommes jeudi matin pour vous, que vous avez l'impression d'être jeudi matin à 10h29, nous aussi, nous sommes donc en direct. Il est tôt, vous pouvez nous appeler au 05 65 49 29 94 pour nous engueuler, nous les tontons flingueurs qui nous levons pour vous raconter des bêtises à l'antenne. La deuxième partie, tout à l'heure, juste après la musique, c'est-à-dire dans 5 ou 10 minutes, on aura le plaisir de faire un petit débat sur la biométrie, la sécurité, le business qui menace nos libertés, les bases élèves, le fichage, enfin, toute cette espèce d'ambiance un peu flippante, là où on se sent quand même vachement surveillé. Big Brother is watching you. Tout de suite, un truc amusant, Marie, quand même, moi j'ai trouvé, on cherchait des trucs un peu cons, un peu fun. Un journal, Rue 89, en l'occurrence, a reçu un communiqué de presse de Dominique de Villepin. Alors, Dominique de Villepin, je vous rappelle qui c'est ce bel homme, cet homme extraordinaire d'1m90 à 1m95 avec ses cheveux argentés que Sarkozy voulait pendre avec un croc de boucher lors de l'affaire Clearstream. Vu la taille du nabot, on se demande comment il aurait fait parce qu'il aurait même pas réussi à l'attraper sous les bras. Passons, Dominique de Villepin, c'est cet homme qui s'est opposé à la guerre en Irak, c'est cet homme qui, quand même, il a énormément de classe. Et donc, quand un communiqué de Dominique de Villepin arrive à Rue 89, nous sommes obligés de vous en faire part et vous allez voir, c'est une information essentielle. Nous reproduisons en intégralité ce communiqué de Dominique de Villepin. Jeanne la folle, Jeanne la sainte, Jeanne la digne, Jeanne la bergère, Jeanne la guerrière, Jeanne du peuple et Jeanne du roi sans sacre, Jeanne l'émancipée, la persécutée, la résistante, Jeanne des humbles, des désespérés et des jours de gloire, Jeanne des heures sombres, des sursauts et des défaites qui se transforment en victoire. Jeanne relapse et donc Jeanne courage, Jeanne de gauche et Jeanne de droite, d'hier et d'aujourd'hui, de personne et de tout le monde. Que vont-ils te dire Jeanne quand l'on brûle à verte? J'arrive même plus à comprendre. Que te font-ils dire Jeanne que l'on brûle à verte? Petite Jeanne de France, Jeanne de tous les Français.
Alors c'est là qu'on
c'était, je le rappelle,
un communiqué
de Dominique de Villepin sur Rue 89. Franchement, ça nous a paru essentiel.
Oui, et voilà, c'est spectaculaire, comme quoi il n'y a pas que nous, quelquefois, racontons n'importe quoi.
C'est tout. Marie, c'est les 10 ans de l'euro, avec son lot de... on sait bien actuellement que l'euro... D'ailleurs, on ne vous parle plus de crise. On ne vous parle plus de crise parce qu'il n'y a plus de crise. Vous avez bien compris, Noël et le Nouvel An, c'est l'avantage.
Ah oui, c'est fini. Hein.
La crise, elle est passée avec tout le reste dans les effluents.
Je sais pas, la dette, l'andouillette, le AAA, mais zéro,
fini.
Quoi.
Ça on rigole, c'est le bordel complet en Grèce, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Franchement, ça va pas super bien. Par contre, au niveau des médias, tout va bien. Alors, nous, on a voulu, les 10 ans de l'euro, il y a eu son lot de hausses, de baisses. Alors, les gens disent, mais non, ça n'a pas augmenté tant que ça. Puis, il y a ceux qui disent, vous foutez de nous, tout a été multiplié par deux. Marie, quelques chiffres, comme ça, on s'est dit que c'était intéressant de faire quelques rappels.
Je vous rappelle mes fiches qui sont donc
en 0,2. Débrouille-toi, Marie.
Mais je suis tombée sur une enquête intéressante, en fait, de l'UFC Que Choisir, qui sont des gens sérieux. Que j'aime bien.
Plutôt sérieux.
Si, franchement.
Non, d'accord.
Ils sont bien, Que Choisir.
D'accord.
Et où ils ont eu l'idée de comparer, en fait, non pas le prix, mais le temps de travail nécessaire pour obtenir des produits de base.
Ouais.
Et alors, suivant leur étude, c'est là où ça... Là, je vais avoir du mal parce que...
Approche la feuille.
Il se trouve qu'en fait, si je me souviens bien, le SMIC a augmenté à peu près. Et ils se basent sur le SMIC. C'est là où je leur ferai... Moi, je
ouais,
suis, voilà.
Mais il faut bien
le
un ratio.
Le SMIC a augmenté d'à peu près 34%.
Mm-hmm.
Et en fait, dans leur conclusion, c'est sur les produits basiques d'alimentation. En fait, grosso modo, les produits ont baissé. Il faut moins de temps. Vous pouvez aller regarder sur l'UFC Que Choisir, si vous voulez, sur leur site internet, où ils ont le détail de tous les de ce truc-là. Donc, par exemple, pour l'alimentation... c'est moins cher sur toute une catégorie de produits.
Attends, quand on paye une baguette, si l'équivalent pour 6 francs...
Eh bien non, écoute...
Presque 6 francs la baguette.
à la baguette était à 43 centimes, un truc comme ça.
Ouais.
Et oui, elle a augmenté, mais
par le phénomène de tu dirais de l'inflation ou de la réévaluation des salaires ou des choses comme ça.
Bah, par l'évaluation du SMIC, voilà, tu bosses moins pour acheter ta baguette. En
donc
fait,
les prix n'ont pas augmenté, t'es en train
pour
de
le
dire.
Pour le SMICard. Ça dépend. Il y a des prix qui ont largement augmenté sur non. Alors, ce qu'ils disent le FC que choisir, c'est que c'est pas que l'euro qui a fait augmenter les trucs. Sans rentrer dans le détail, si. Alors il y a des trucs qui sont pulvérisés, c'est l'électricité, le gaz, bien sûr. Ouais. 62% le gaz.
Mais ça, c'est pas l'euro, ça. C'est pas.
Non, c'est pas l'euro. Voilà. Ce que dit l'UFC que choisir, c'est que c'est pas forcément, c'est pas en tout cas que l'euro. Que l'euro, leur titre, c'est que c'était un bouc émissaire facile de la hausse des prix. Par contre, il y a des gens qui se sont gavés. Le logement, c'est monstrueux. Ouais. 154% le mètre carré à Paris en 10 ans. Ce qui était déjà exorbitant.
Donc, faut payer les campagnes électorales. Et tu crois que. Vas-y.
Et oui, voilà, il faut payer. Alors après, moi, là où je ferai le petit. Donc, allez regarder, parce que pour pas que je vous dise de bêtises, allez regarder sur le site du Léger, c'est intéressant. Maintenant, ce que je leur ferai le reproche, c'est que je ne suis pas sûre que les autres salaires aient été augmentés de 34% depuis 10 ans. Et donc, il semblerait quand même que je pense que moi... Oui,
alors, les 10 ans de l'euro, grosso modo, dans la synthèse, c'est du plus, c'est du moins, c'est pour toi, enfin pour cet article...
Non, c'est évident que c'est du moins. Mais cette façon de voir par rapport à un gars qui gagne le SMIC aujourd'hui, sentir, attention... Si son logement est à lui, s'il n'a pas de frais d'essence, parce
un
que le frais,
propriétaire,
les frais d'essence ont bondi, enfin les frais de carburant, c'est 62% aussi.
Mais ça n'a aucun rapport avec l'euro, c'est le contexte, on va dire du coup du enfin non, on peut pas prendre.
C'est trop difficile.
Non, ce qu'on peut dire par contre, ce qu'on peut peut-être dire Marie, c'est que et d'une façon, ça a été un réflexe commerçant ça, et ça personne peut le nier, c'est que au moment d'arrondir, de passer à l'euro, quand on a arrondi au supérieur et tout le monde l'a fait. Seulement, ce qu'on ne voit pas, c'est évidemment 1 euro, ce n'est pas grand-chose. Donc, si on augmente d'un euro sur une facture de 60, ça semble relativement indolore aux gens. Mais bon, en termes de francs, pour nous qui vivions avec le franc à l'époque, aujourd'hui, on voit les gens sortir 50 euros. En réalité, là où c'est très fort et très subtil, c'est que on a changé pour toute une génération l'échelle avec cette espèce de calcul. On va dire quelqu'un qui avait un billet de 10 balles à l'époque, un billet de 10 francs, il savait qu'avec son billet de 10 francs, il allait pas faire grand-chose. Et on a gardé dans l'esprit quelqu'un qui a un billet de 10 euros aujourd'hui, a exactement la même sensation, il se dit j'ai 10 euros, je peux pas faire grand-chose avec. Oui, mais c'est 6 fois et demi notre billet de 10 balles de l'époque.
Et
c'est toujours 10. Et c'est là que c'est vicelard, c'est-à-dire que dans la tête des gens c'est 10, et aujourd'hui moi je vois des gens qui me disent « Ouais, d'ailleurs c'est un truc extrêmement flagrant, je vais prendre un exemple bête chez les joueurs de PMU. Vous prenez un joueur de PMU, basique, il va jouer 1 ou 2 euros sur une course, et la course va lui rapporter 20 ou 30 euros. Et le type il dit « Ouais, bon, 30 euros, je vais pas être millionnaire avec ça ». Mais rappelons quand même, pour situer juste que 30 euros, c'est 200 balles. 200 francs pour nous de l'époque. Deux billets de 100 balles. Et deux billets de 100 balles, c'était beaucoup. On faisait plein de trucs à l'époque avec. Donc cette proportion a complètement changé, ce qui fait que les gens dépensent sans s'en rendre compte plus et d'une façon probablement moins cohérente parce qu'on a l'impression d'avoir la même chose. Un billet de 10 euros, c'est l'équivalent du billet de 10 balles de l'époque. C'est pas du tout la même chose.
C'est pas du tout la même chose. Et pour refinir sur cette histoire sur l'étude de que choisir, je leur ferai aussi un dernier reproche, c'est que peut-être ils se sont basés sur des produits de marque. Alors que bon, eh ben, les produits de marque, ok, ils ont augmenté. Le beurre, je vois qu'il a fait plus 48%. Le steak haché, 107%.
Ouais. Les matières premières, elles, par contre, elles ont pas faibli.
Le lait, bien sûr, le lait. Ouais. Hein, on se souvient tous du lait. 182% l'augmentation. Donc là, voilà. Eh ben, en fait, conclusion, c'était intéressant, mais je ne suis pas d'accord avec eux.
On va dire que l'inflation, pour finir vite fait, on se fait une petite pause là, dans les 10 secondes. Ça nous laisse le temps à Chloé de nous préparer le petit scud qui arrive. Ce qu'on peut dire peut-être sur ce sujet-là, c'est qu'en réalité, il y en a une bonne partie des gens qui pensent que l'euro nous a protégés en réalité. C'est-à-dire que si on avait eu le franc, on aurait des spéculations beaucoup plus importantes. Je ne suis pas moi assez spécialiste pour savoir au niveau économique si la spéculation sur les matières premières aurait été différente si on avait été en franc ou ainsi de suite. Toujours est-il que la France est quand même un des pays producteurs de céréales, un des plus importants, voire le premier peut-être, ou le deuxième après les États-Unis, il me semble, le deuxième producteur de céréales sur Terre. Et donc, à ce titre-là, on aurait eu du mal à exporter en francs, qu'il aurait bien fallu convertir, parce que les gens auraient acheté en dollars s'il n'y avait pas eu l'euro. Et je pense qu'on n'aurait pas forcément gagné au change. Aujourd'hui, on a un euro qui a été un peu surévalué, qui nous pose des problèmes, effectivement, dans le cadre des échanges. Je ne suis pas sûr qu'il faille tout mettre dans la tête de l'euro, et en tout cas, sûrement pas toutes les hausses que l'on a pu subir. Par contre, que c'est changé un comportement dans la dépense ou chez les commerçants, ça, c'est très clair. clair et très probable. Petite pause musicale, on s'écoute La Canaille qui nous propose Trop Facile.
C'est trop facile de se prétendre féministe, d'afficher le 3 gazelle ici et là en tête de liste, de vanter les mérites d'une France plurielle, mettre des blacks, blancs, beurre aux fonctions ministérielles, de paraître moderne, tolérant et progressiste, d'instaurer le Pacte, de ne pas nier que ça existe. Et au bout du compte, qui s'est qu'on retrouve au bas de l'échelle, une femme pauvre et lesbienne de couleur ébène. M'arrête un peu chez toi, qui fait la vaisselle? Qui fait la bouffe, les courses, qui sent les poubelles? Qui s'occupe des gosses, qui astique, qui lave les draps? Dis-moi, ça aussi, tu n'y peux rien, c'est à cause de l'État. C'est trop facile, le rôle de la brute épaisse, le pur, le dur, le vrai caille que t'esse, de vouloir tout niquer sous prétexte qu'on est ancien, de l'école de son quartier, la tire de son voisin, de semer la terreur en nombre en bas des bâtiments, et de pourrir plus qu'elle ne l'est déjà la vie de ses habitants. Qui au bout du compte, ça n'est rien d'autre qu'une balle dans le pied, qui alimente la haine et participe à la saignée. M'arrête un peu, depuis quand tu as pas mis les pieds? Combien de temps que tu vis en centre-ville, loin des cages d'escalier? Toi t'as fait des études, t'as la musique, t'as pu construire. Mais qu'est-ce que tu serais devenu si tu n'avais pas pu t'enfuir? C'est trop facile d'avoir le propos radical, l'ambition de changer le monde, d'être anticapital, de parader à chaque manif, de faire le même parcours, les mêmes slogans, les mêmes pancartes et le même discours. Puis d'ouvrir les pourparlers avec la gauche et se fourvoyer, pour plus de voix, plus de quoi, pour un jour rayonner. Et au bout du compte, t'es pathétique, le poing en l'air, crier révolution, ne fais pas de toi révolutionnaire. M'arrête un peu, toi dis-moi qu'est-ce que tu fais au fond, à part te regarder le nombril et jouer l'artiste à la con, qui part au front pendant ce temps, qui milite au quotidien, qui mène vraiment la lutte et se casse les dents sur le terrain. C'est trop facile de se la raconter poète, de scander des niaiseries et de passer pour un prophète, de nous apprendre la différence entre bien et mal. Ça c'est du lourd et ça c'est immoral, de glorifier la France, bel enfant de la République, nous rappeler à quel point ce pays est magnifique. Et au bout du compte, sous l'esthétique de l'emballage, un tas de clichés, une imposture de bas étage. M'arrête un peu, s'il te plaît, toi tu te prends pour qui? Avant de cracher sur les autres, d'avancer que c'est tout pourri, hein. Combien d'albums vendus? Combien de concerts? Combien d'écrits à ton actif pour parler en expert?
C'est trop facile. Ouais, c'est pas mal quand même ce petit truc, la canaille là. Retour Marie qui hallucine. Retour sur les tontons flingueurs, Marie de la Grandière, Gilles Bourouillet, Chloé en technique qui se foutait de nous parce qu'on est en train de tirer sur la cigarette. Non, pardon. Non, faut pas fumer. Ne fumez pas.
C'est mal.
Ne mangez pas trop gras. Consommez 5 fruits et légumes par jour.
Mettez votre ceinture de sécurité, enfin tout ça.
On a fait tous les messages, c'est bon, ça y est. Voilà.
La sécurité.
The débat. C'était très bien, effectivement, Marie, cette transition. La sécurité.
J'insiste pour une fois que par hasard.
On va en prendre plein la gueule sur cette campagne électorale de la sécurité, mais à peu près comme pour la précédente. Rappelons-nous pour l'histoire, et là j'ai pas de notes parce que ça m'avait particulièrement choqué, la manière dont l'élection où nous avons vu s'opposer au second tour le Front National et Jacques Chirac élu glorieusement à 80% pour faire opposition au FN, hein, à H-A-I-N-E, ça s'est passé comment? Personne s'en souvient probablement. Des faits divers, d'une façon insidieuse dans les médias. En tête de cortège, France 3, qui avait été torpillée. On avait balancé des gars qui allaient bien à France 3, à la rédaction, pour bien influencer tout le monde. Et entre autres, un pauvre SDF qui avait été honteusement tué, ou je sais plus, dépouillé. Enfin, on lui avait mis la grosse tête au SDF, 15 jours avant l'élection. Et alors, que des trucs comme ça sur la sécurité, ne flippez pas, braves gens, on va vous refaire exactement la même. Et le problème, c'est qu'il y a, grosso modo, 60 à 70% des Français qui vont prendre ce genre d'argument au premier degré et qui vont dire, mon bon monsieur, dans quel monde vivons-nous? Et avec cet argument, d'une façon générale, sur la sécurité, parce que tout le monde le gobe, on nous impose petit à petit, on nous fait rentrer dans nos mœurs petit à petit, l'acceptation de choses qui, pour moi, sont les prémices ou la mise en place totale d'une dictature. Alors, est-ce que le mot est trop fort? C'est un petit peu le débat maintenant. Est-ce que dans une société totalement sécurisée, on va prendre différents exemples, nous restons en démocratie? Est-ce que la façon dont la liberté individuelle et le droit à l'anonymat qui n'est absolument plus respecté. Est-ce que c'est quelque chose qui menace la démocratie? Vous pouvez nous appeler pendant un quart d'heure au 05 65 49 29 94. Et on va tout de suite attaquer ce sujet par un article qui est très intéressant sur la biométrie. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité. Alors vous savez, la biométrie, c'est ce principe qui consiste à prendre l'empreinte de votre œil pour vérifier que c'est bien vous, que vous êtes bien vous. Alors... évidemment, on voit bien les applications, il y en a plein hein, dans les aéroports, il y a vraiment plein d'applications. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a un marché extrêmement juteux, et particulièrement pour les entreprises françaises derrière, puisque nous dominons le marché de l'identité au niveau mondial, sauf en France. Hein, faut savoir. Mais pas pour longtemps, parce qu'ils sont en train de faire un énorme lobbying politique, ces braves gens. Et il faut bien comprendre un petit peu de quoi on parle quand on parle du business de la biométrie. Selon une agence américaine qui s'appelle Markets and Markets, le marché mondial de la biométrie représente 8,5 milliards d'euros d'ici 2015. C'est une expansion évidemment qui va particulièrement fonctionner dans les pays émergents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'état civil. Vous prenez par exemple un pays comme l'Inde, il y a plein de gens qui ne sont pas identifiés, référencés. Donc, grosso modo, avec le nombre qu'ils sont, il y a un marché absolument fabuleux. Donc, à ce titre, l'Inde a lancé un projet qui visait à constituer une base de données biométrique qui a été remportée en 2010 par une entreprise française qui s'appelle Morpho et qui est une filiale du groupe d'armement et de défense Safran. Alors, on va marquer une première petite pause sur cette information-là. Donc, la France est devenue, par le biais de son armée ou de ses spécialistes militaires, un pays qui vend de la sécurité. Mais pour vendre de la sécurité, est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation de vendre les problèmes qui vont avec?
Ah bah, si personne n'a peur, la sécurité, on s'en fout, quoi.
C'est ça, pour qu'il y ait un marché de la sécurité, il faut que les gens flippent.
Bah, évidemment.
Sinon, ça fonctionne
attends,
pas.
Qu'est-ce que je vais m'emmerder à aller acheter un système biométrique pour mettre devant ma porte d'entrée, pour reconnaître si c'est moi qui rentre dans ma maison, si tout va bien?
Ben c'est ça le truc qu'on comprend pas. Alors évidemment il y a des lois qui sont proposées. Alors il y a énormément de lobbying. Hein. Alors l'Inde, l'enjeu pour eux il est très important parce qu'ils disent c'est pour court-circuiter la corruption. Parce que les trois quarts des aides sociales sont détournées évidemment vu qu'il n'y a pas d'identité. On peut comprendre. On va voir par ce biais-là à quel point on arrive jusqu'à la fameuse phrase qui sert d'excuse. Si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est pas un problème. Ça faudra quand même qu'on en parle dans deux minutes. Le problème c'est que les autorités indiennes ont mis un coup d'arrêt au projet début décembre. La boîte Morpho, la numéro 1 mondial des documents d'identité, la boîte française, s'est dit « Oh là là, on est dans la merde, il faut absolument attaquer le marché français pour essayer de compenser cette perte ». Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire du lobbying, et ça a vachement bien marché, parce que vous ne le savez pas, mais le 13 décembre, une loi a été adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, qui permettrait la création d'une base de données commune à la carte d'identité, qui deviendrait donc électronique, et des passeports qui sont d'ores et déjà biométriques. Nous aurions donc 45 millions de Français qui figureraient dans ce fichier. D'abord adopté pour lutter contre l'usurpation d'identité, évidemment les promoteurs au Sénat avaient l'esprit, la prospérité des entreprises du secteur. Alors on en a la preuve avec un monsieur qui s'appelle Le Cerf, qui est sénateur UMP du Nord, et qui est auteur de la proposition de loi et qui dit « Le sujet engage aussi des enjeux économiques, industriels. Les entreprises françaises en pointe sur ce domaine veulent investir le marché français. Elles ne vendent rien en France, ce qui les pénalise à l'exportation par rapport aux concurrents américains. » Voilà.
Zut alors.
Alors, le business et la sécurité. Est-ce que c'est dangereux pour la démocratie? Première pause. Marie, on fait un petit tour là, comme ça, pour voir ce que t'en penses. On en parlait hier déjà.
Oui, alors déjà hier, je comprenais pas bien ce que la démocratie venait faire dans le tableau, mais parce qu'on n'a peut-être pas la même définition de la démocratie. Mais ouais. Évidemment que le business et la sécurité, oui, ça me pose un problème. Ce que tu as évoqué tout à l'heure, de faire monter la peur pour fourguer des choses. En fait, tout est toujours détourné un petit peu vers ce but-là. Hein.
Ouais.
Et oui, ça me tanne, quoi. J'ai pas envie d'être fiché rien que pour rien
oui,
que
oui,
pour
mais si t'as rien sous. À te reprocher, tu t'en fous.
Si je
tu vois, c'est ce que va te dire.
Un truc à
c'est
me reprocher, ce
te dire,
moi.
On a tous toujours
mais
quelque chose à se reprocher, finalement. C'est ça que tu
je connais. Moi, je pense que, enfin, je sais pas. Autour de cette table, je regarde même pas Chloé. Chloé, on sait très bien.
Elle n'a rien à se reprocher, Chloé. Bah, elle est parfaite.
Attends, déjà, elle a mis une jupe lundi dernier. Alors,
voilà.
Attends,
hein. La vidéo sur E3W.
et voilà. Oui, les gens qui. Mais c'est très inquiétant, oui. Les gens qui n'ont rien à se reprocher.
C'est vrai que tu m'avais fait la remarque hier en me disant, je vois pas trop où tu veux en venir avec ce sujet-là, parce qu'on a cherché. On galère de plus en plus pour vous trouver des débats. Bientôt, je vous dis franchement, on va supprimer les débats sur cette antenne. Non. On se demandait un petit peu comment faire le lien et moi pour moi c'est très facile et plusieurs fois sur cette antenne j'ai utilisé le alors peut-être d'une façon raccourcie et ça m'a été soulevé par des auditeurs le fait d'avoir dit oui mais de toute manière le business, le monde ultra-libéral se satisfait parfaitement d'une société dictatoriale. pas dire fasciste parce que le mot fasciste est galvaudé, mais dictatorial. Et je l'ai balancé un petit peu vite comme ça, et en réalité là on a tous les liens. Alors souvent également quand on a parlé de cette thématique, on a parlé de l'exemple de Milton Friedman. Je sais, c'est redondant.
Ça fait longtemps que vous n'aviez pas entendu parler de Milton Friedman.
Non, mais c'est redondant, mais je m'en fous parce que c'est fondamental. Je m'en fous, c'est fondamental. Milton Friedman, ce théoricien qui a eu une faculté, l'école, les élèves, l'école de Chicago. Ces gens, dans les années 60...
Je vais finir par le lire.
Il va falloir le lire. Ces gens, dans les années 60, il faut bien que vous compreniez ça, ces gens, dans les années 60, ont testé l'ultralibéralisme ressemblant à peu de choses près à celui d'aujourd'hui, mais ils ont été directement à l'essentiel. Ils l'ont testé, accompagné d'une dictature pour pas perdre de temps. Ça s'appelait le Chili, ça s'appelait l'assassinat d'Allende, ça s'appelait la mise en place de Pinochet. Et en 10 ans, ces gens-là ont réussi, en adjoignant, en mélangeant l'ultralibéralisme, le business donc, et la dictature, à couler le Chili et à repartir la queue entre les pattes. Ils ressurgissent 30 ans après dans toutes les doctrines qu'on entend aujourd'hui, dans l'organisation de la planète, dans les agences de notation, tout ce que vous entendez. Vous avez des Chicago Boys, des gens qui découlent de cette doctrine. Donc c'est fondamental, c'est pas grave, on le répétera encore. C'était une première preuve que le business était prêt à se satisfaire d'une dictature. Pourquoi ? Parce que quand on compresse les gens, qu'on les tord dans tous les sens, qu'on fait des malheureux, qu'on empêche les gens de s'épanouir, de se développer dans leur boulot, qu'on les contraint, qu'on leur plombe leurs vacances, qu'on leur permet pas de se payer ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment où forcément ça risque de péter. Donc c'est la deuxième base évidente. On n'impose pas une économie comme celle qu'on est en train d'imposer sans rigueur. Mais braves gens, la rigueur est-elle seulement économique ? Et c'est là l'intérêt de notre sujet. Non, la rigueur, elle est également sécuritaire, parce que sous prétexte de sécurité, on est en train petit à petit...
Souvenez-vous des banlieues. Souvenez-vous des banlieues où on a eu c'était les images non-stop. Bien sûr, il y a des bagnoles qui crament dans les banlieues.
Ayez peur.
Et surtout, les gars, ayez peur. Alors ça, c'est très intéressant de voir d'ailleurs que moins les gens connaissent, c'est beaucoup plus facile de faire peur à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet qu'à un gars qui habite dans une banlieue. Hein, parce qu'on voit des images, on se dit « Oh mon Dieu, c'est horrible, j'habite dans un petit village où ma communauté est super tranquille ». Qui va avoir le plus peur ? Eh bien, c'est le gars qui habite le petit village parce qu'il voit juste l'image ignoble de la banlieue épouvantable avec les trucs. Et c'est l'horreur.
Mais c'est ça.
Et donc, c'est la peur de l'inconnu. Et ça marche.
Et balancé dans les médias tous les jours, on finit par en faire une généralité. Au même titre qu'en milieu rural, on paye une bonne partie des paranos de la ville. Et que si on s'amusait à regarder l'ensemble des lois qui sont votées au quotidien, on se rendrait compte que ces lois sont votées pour la ville, pour des problèmes de la ville, et qu'elles sont appliquées sans le moindre problème à des gens de la campagne.
Je voudrais citer d'ailleurs sur le truc de la pression et de la peur et des trucs déments, un petit incident dont j'ai été témoin dans un bal cet été, hein, dans un bal de nos villages. Donc on voit que on sait très bien comment ça se passe,
hein.
C'est plutôt vachement tranquille. Quelquefois il y a des échauffourées,
il y a quelques bourpifs
comme il y en a peut-être depuis que les balles existent,
bien sûr,
hein. Et bien là il y a eu l'intervention d'une brigade spéciale, je ne sais pas d'où ils sortaient, de jeunes, je ne sais pas où ils sont recrutés, comment ils sont formés, mais enfin je pense qu'ils ne sont pas du tout à leur place. Et je vous la fais brève, mais à un moment ils avaient tellement peur, parce qu'il y avait une bande de jeunes, ils avaient tellement peur qu'ils étaient figés, je l'ai vu sur sa tête, et je suis allée m'adresser à cette personne, hein, qui était un gendarme, j'ai dit mais enfin, il faudrait peut-être que vous bougiez, parce qu'il y avait un gars qui était en mauvaise posture, qui devait aller à l'hôpital. Et j'ai dit mais pourquoi vous avez peur comme ça ? Mais c'est parce qu'on nous caillasse. Waouh. Il avait dans l'idée qu'il allait se faire caillasser, tu vois le terme, je sais donc...
Non mais ce que tu soulèves c'est intéressant, parce que si on prend l'analyse un petit peu dans les médias, prenons l'exemple, alors attention, hein, moi je fais très attention à ce que je dis, mais parce qu'en plus je fais très attention à ce que je pense, c'est-à-dire que si je dis par exemple, moi ça me gonfle, chaque fois qu'il y a un fait divers entre guillemets ou qu'un policier est attaqué, on peut pas s'en satisfaire, on peut pas dire c'est bien, un policier a été attaqué, c'est pas le but des propos ici, mais je trouve à l'inverse complètement hallucinant que l'on puisse avoir des policiers, des gendarmes ou des gens qui sont là représentants de la sécurité, à qui par ailleurs on met une énorme pression, et particulièrement depuis Sarkozy sur les chiffres. Il y en a un qui meurt dans l'exercice de ses fonctions et tout le monde se scandalise, tout le monde s'horrifie. Rappelons quand même que quand on fait le choix de faire ce métier, qu'on fait pas que du préventif mais qu'on fait du répressif, il y a un moment où il faut bien s'attendre. Il y a des risques. Donc effectivement, c'est horrible quand quelqu'un meurt dans l'exercice de ses fonctions, mais enfin s'il y a bien une catégorie, malheureusement, des fois les pompiers, des fois les gendarmes, tous ces gens qui ont des métiers à risque, eh ben, la manière dont les médias exploitent ce genre de choses, nous les ressassent en boucle, pour faire prendre petit à petit dans l'inconscient collectif que surtout, Surtout les gens qui s'occupent des problèmes de sécurité sont des alliés, ils vous protègent, ils ne sont pas là pour vous poser un problème, donc on les dresse dès qu'il y a un décès, un peu comme des super-héros, et maintenant à chaque gendarme qui se fait buter, t'as Sarkozy qui fait un truc d'honneur dans la...
Un civil se fait buter, il y a beaucoup moins de trucs autour.
On est bien
d'accord. Comme tu le dis, c'est triste qu'un gendarme meure.
Mais on les élève au stade de héros pour nous faire accepter cette idée finalement que ces gens-là nous protègent. De quoi, j'en sais rien, particulièrement à Sainte-Afrique. Alors, je voudrais qu'on avance un petit peu, parce qu'évidemment, comme à chaque fois dans les débats, on n'a jamais suffisamment de temps. Si on s'amusait à prendre derrière l'argument sécurité, en réalité, les business déguisés, parce que c'est un peu ça quand même la thématique. On a souvent parlé de bas élèves à cette antenne. Qu'est-ce qu'il y a derrière bas élèves? Tous les gens qui se sont intéressés au dossier le savent très bien. Au-delà de la détection des élèves ou du fait de l'organisation de l'instruction publique, il y a un truc qui s'appelle la table ronde des éditeurs. Et la table ronde des éditeurs, ça fait absolument 20 ans qu'on est au courant que l'objectif de ces gens-là est d'avoir une base de données absolument gigantesque des élèves et des... Pourquoi ? Pour faire des contenus adaptés, pour faire des publicités dans les contenus adaptés et pour récupérer des marchés qui actuellement s'élèvent en millions ou en milliards d'euros et qui sont pas très très ouverts. Donc finalement, c'est très bien que le seul argument là-dessus, c'est oui, mais bas élèves, c'est très bien, mais rassurez-vous, braves gens, jamais votre enfant qui a été fiché dans bas élèves, jamais ça tombera dans les mains des méchants. C'est totalement bidon. Bas élèves, c'est la partie pour les élèves du premier cycle. En deuxième cycle, il y a un truc qui s'appelle Sconnet qui existe depuis des années, donc qui était fiché. Et Sconnet, on s'est rendu compte que ça circulait d'une façon totalement libre dans le business, que les fichiers avaient été déjà revendus ou avaient été piratés. Bon, enfin, quand on veut revendre quelque chose et que ça ne se sache pas, eh ben, on s'arrange pour que ce soit piraté. Il y a un méchant hacker qui passe par là. Toujours est-il que tout ça, c'est du bidon. Donc, bas élèves, business, Atopi. Adopi, c'est quoi Adopi? C'est jamais qu'une loi qui a été faite pour protéger l'industrie du disque.
Ah oui, et avec la SACEM, c'est une honte, là aussi.
Bon, Adopi, voilà encore un fichier, business. Et on se rend compte, tiens, si on commence à s'amuser un petit peu partout, que l'intégralité de ces fichiers, à part quelques-uns, évidemment, les empreintes génétiques, l'ADN et ainsi de suite, tout ça, ça va servir...
Mais qui peuvent être détournés, qui ne sont pas forcément au départ des choses commerciales, mais qui peuvent être détournés après. De toute façon, il y a toujours des petits malins qui arrivent à faire de l'argent avec ces trucs-là. Quoi.
Bah donc, oui. Alors, il y a eu un débat il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale là-dessus, parce qu'il y a des types qui se sont amusés quand même à faire... Il y a eu un peu, vous vous souvenez de la polémique Edwige en 2008, ce fameux fichier qui était censé fliquer absolument tout le monde. Il y a des députés socialistes qui ont fait une petite enquête là, qui se sont amusés. Et les mecs, ils se sont amusés, il y a 58 fichiers entre la police et la gendarmerie, 58 fichiers qui existent, un quart n'ont aucune base légale. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Les deux députés, c'est Delphine Bateau des Deux-Sèvres et Benisti, qui était pourtant lui un député UMP du Val-de-Marne, donc ils l'ont fait d'une façon amusante. Les mecs, ils se sont rendus compte, super, 58 fichiers, alors qu'en 2006, on en recensait officiellement qu'une quarantaine. Alors le problème de ces fichiers, c'est que ceux qui n'ont pas de base légale, ils sont quand même assez craignos. Il n'y a pas de décret, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'existence légale. Alors quel type de fichier, par exemple? Évidemment, vous avez les fichiers de suivi de la circulation des gitans. Vous avez le fichier extrêmement intéressant également des empreintes génétiques. Celui-là, on le connaît. Il est plutôt bien tenu, il paraît. Hein. Bon, il est très bien. Par contre, il est plein d'erreurs. Il est bien tenu, mais il est plein d'erreurs. Il est absolument plein d'erreurs. C'est une catastrophe complète, mais c'est comme ça. On a le fichier des mineurs. Ah, c'est bien le fichier des mineurs, c'est pas mal. C'est 3000 mineurs sont actuellement fichés en France. Ils étaient 600 dans l'ancien fichier des RG. Le seul objectif, c'est la sécurité du territoire. Alors le député MP lui dit, il faut prévoir la possibilité d'inscrire des mineurs n'ayant commis aucun délit, mais qui présentent un risque.
Ah, c'est intéressant.
Vous voyez, en raison de leur activité individuelle ou collective, ils peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Ouais, on en est là. C'est-à-dire que maintenant, on va bientôt ficher les gens par anticipation. Alors, il nous reste une petite minute. Marie, est-ce qu'on peut accepter cette phrase? Si tu n'as rien à te reprocher, ce n'est pas un problème.
Parce que personne qui n'a rien à se reprocher.
Oui, mais c'est le seul argument. C'est ce que tout le monde va dire. Et particulièrement, bon, Français qui a la sensation qu'il n'a rien à se reprocher. Mais c'est quoi avoir quelque chose à se reprocher? C'est là peut-être qu'il y a un problème au début de l'analyse. Le mec, il se dit, bon, si je trompe pas ma femme, pas de problème, je vais pas me faire gauler. Si je picole pas en prenant le volant, pas de problème, je vais pas me faire gauler.
C'est une restriction totale des
libertés. Si je fume pas des pétards, pas de problème, je vais pas me faire gauler. Si ceci, je vais pas me faire gauler. Et au final, si quoi?
Eh ben, si on est tous des beaux uniformes, dans des beaux clonages et dans un bon système de business, ça va super bien se passer.
Voilà, toi qui écoutes Radio Saint-Afrique en ce jeudi matin ou en ce jeudi soir, lève-toi, va travailler, mange 5 fruits et légumes par jour, ne mange pas trop gras, ne mange pas salé, ne mange pas sucré, merci Chloé, merci Marie. La semaine prochaine, on vous dit pas, on se retrouve. Si on se retrouve, les tontons seront là, mais avec une émission thématique, enregistrée. Nous en avons fait quelques-unes pendant la pause. Et vous allez voir, il y a des sujets vachement sympas. Je ne sais pas si on commencera sur celle sur le sexe ou sur le groupe peut-être. Voilà, une heure sur le groupe, ça peut être vachement intéressant par les temps qui courent. Salut Marie.
Salut Gilles.
Salut à tous, merci Chloé. Bye bye.
Mais il connaît pas Raoul ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pointe je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous.
J'avais oublié, il y a 10% d'amende pour le retard.
Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.